SBS Radio.
Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 20 juin. Quatre suspects ont été désignés dans l'affaire du crash du vol MH17 en Ukraine. Le rapporteur de l'ONU a confirmé le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie et en Australie. La police intensifie ses recherches pour retrouver le Belge Théo Hayé à Byron Bay. Cinq ans après le crash du vol MH17, quatre personnes ont été inculpées pour avoir commandité le tir du missile qui a abattu cet avion alors qu'il survolait l'Ukraine le 17 juillet 2014. Un crash fatal pour les 283 passagers et 15 membres du personnel de bord de cet avion de la Malaysia Airlines. On fait le point avec Johanna Hochstein de RFI.
Les enquêteurs internationaux sont parvenus à réunir suffisamment de preuves pour identifier et inculper quatre personnes dans l'affaire du crash du vol MH17. Elles sont soupçonnées d'avoir commandité le tir du missile Buk à l'origine de la destruction de l'avion. Il s'agit de trois militaires russes, dont l'ancien ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk, Igor Girkin, et d'un Ukrainien lié au service de renseignement des séparatistes. Fred Westerbeke est le procureur néerlandais chargé de l'enquête.
Ils ont eu un rôle prépondérant dans l'est de l'Ukraine. Ce sont eux qui ont demandé ce missile Buk et ce sont eux qui ont tout mis en œuvre pour qu'il soit acheminé dans la zone dont ils avaient la responsabilité. Et c'est à partir de cette zone que le MH17 a été abattu. Ils sont responsables pour l'ensemble de cette opération.
Ces quatre suspects sont donc poursuivis pour meurtre. Ils seront jugés à partir du 9 mars 2020 devant la justice néerlandaise. Ils risquent la prison à vie, mais selon les enquêteurs internationaux, il paraît peu probable qu'ils assistent physiquement à leur procès, les constitutions ukrainiennes et russes ne permettant pas les extraditions de leurs nationaux. Johanna Hochstein à Nieuwegein, aux Pays-Bas, RFI.
Et ce nouveau rebondissement provoque également des réactions en Australie, notamment celle de Julie Bishop. Elle était en 2014 la ministre des Affaires étrangères et elle avait à cette époque fait pression pour que soit menée une enquête internationale. Elle a espéré sur ABC que ces nouvelles révélations apporteraient du réconfort aux familles des victimes, parmi lesquelles on dénombre 38 Australiens.
It is a relief. I welcome this progress in the investigation of the shooting down of MH17, with the naming of these four individuals to be prosecuted for their role in what was a despicable crime that killed 298 passengers and crew, including 38 Australian residents and citizens. And I think it will be a relief to the families who deserve answers as to how their loved ones died aboard that plane.
L'Arabie Saoudite est officiellement responsable de la mort du journaliste Jamal Khashoggi. C'est ce qu'affirme la rapporteure spéciale de l'ONU pour les droits de l'homme à propos de ce journaliste mort dans des conditions très étranges en octobre dernier, alors qu'il se trouvait à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. Ces accusations interviennent après une enquête qui aura duré 6 mois. Agnès Callamard, la rapporteure spéciale, souhaite également qu'une enquête internationale soit ouverte et qui vise plus directement le prince héritier saoudien qui semble impliqué dans cette affaire. On l'écoute.
Il faudrait que le secrétaire général des Nations Unies mette en place une enquête de type criminel pour identifier les responsabilités individuelles pour le crime et pour aussi identifier les mécanismes qui pourraient permettre à ces individus d'être traduits en justice. Je n'ai pas de solution toute donnée. Je suggère peut-être qu'il pourrait s'agir d'un tribunal hybride, peut-être qu'il pourrait s'agir d'un tribunal international ad hoc. Je ne rejette pas aussi la possibilité que les États-Unis puissent jouer un rôle dans le processus de responsabilisation d'individus. Le crime de M. Khashoggi a attirer l'attention d'un grand nombre d'acteurs, pas seulement les États, mais aussi les médias, les organisations de la société civile. Il y a une réalisation parmi l'opinion publique internationale que ce crime est inacceptable. Et je n'ai aucun doute qu'il va continuer à y avoir pression sur les gouvernements pour que ces gouvernements prennent des actions nécessaires.
Et le président turc Recep Tayyip Erdogan espère pour sa part que les responsables paieront pour leurs crimes. On l'écoute.
Now the United Nations are unveiling its report on the case of Jamal Khashoggi. In the report, the United Nations say Saudis are definitely guilty and they definitely had knowledge about this matter. They also say the Saudi stance on Turkey was wrong. Now they'll pay the price for this. They will be held accountable.
Des réfugiés toujours plus nombreux à travers le monde, c'est ce qu'annonce l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui précise que le nombre de personnes qui fuient la guerre et les persécutions est désormais supérieur à 70 millions. C'est 3 fois la population totale de l'Australie et c'est aussi 2 millions de réfugiés de plus que l'année passée. Alors, dans la grande majorité des cas, ces millions de déplacés vont chercher refuge pas très loin, en fait, dans un pays voisin du leur. C'est ce que nous dit Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies chargé des réfugiés.
When you say Europe has a refugee emergency or the United States or Australia, no. Most of the refugees are in fact in the countries next to where the war is. And unfortunately, that means mostly in poor countries or in middle-income countries. That's where the crisis is. That's where we need to focus.
Et à Canberra, en Australie, les parlementaires s'écharpent à propos de la loi Medivac qui a été adoptée il y a quelques mois contre la volonté de Scott Morrison et que la coalition réélue cherche désormais à abroger. Le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, estime que cette loi qui vise à faciliter la prise en charge médicale en Australie des réfugiés détenus à Nauru et sur Manus Island représente une menace pour la sécurité des frontières du pays. Il réagissait au lendemain d'une décision de justice qui estimait que ces médecins qui décident si l'état de santé d'un réfugié nécessite son rapatriement en Australie, ces médecins pouvaient faire leur diagnostic à distance. Et le diagnostic à distance est une pratique très courante d'après David Bourque, qui est avocat au Human Rights Law Center.
This is something that's done every day in Australian hospitals where surgeons and specialists are recommending treatment for patients on the basis of detailed medical records and x-rays and lab tests. There's nothing controversial about this.
On prend maintenant la direction de Byron Bay au nord des Nouvelles-Galles du Sud où les recherches de la police ont repris ce matin pour retrouver le Belge Théo Hayet avec des moyens supplémentaires. La police est assistée aujourd'hui par des secouristes qui vont descendre en rappel le long de falaises qui étaient inaccessibles à la police. Elle va également mobiliser des plongeurs mais aussi des drones pour quadriller toute la zone aux alentours du phare de Byron Bay. C'est à cet endroit qu'a pour la dernière fois borné le téléphone du jeune backpacker dont on est sans nouvelles depuis le 31 mai.
Un beau démarrage pour l'A321XLR. Au troisième jour du salon, Airbus a annoncé 202 commandes pour cet appareil. Les compagnies aériennes confirment donc l'attrait pour le nouveau moyen courrier européen très longue distance présenté lundi au Bourget, dont les livraisons sont prévues début 2024. Ce nouveau monocouloir plus petit que les gros porteurs peut parcourir jusqu'à 8700 km en 9 heures et va permettre aux compagnies d'ouvrir de nouvelles lignes sur des réseaux secondaires. Parmi les clients de l'A321XLR figurent American Airlines, acheteur historique du 737 MAX de Boeing, la compagnie américaine en commande 50, tout comme le groupe d'investissement américain Indigo Partners. L'Australien Qantas s'engage, lui, pour 36 de ses appareils. Seule l'Arabie Saoudite a passé commande pour 15 A321 XLR et 50 Airbus. Ses voisins du Golfe sont les grands absents de l'édition 2019. Mais le coup de théâtre est venu mardi des Britanniques. Le groupe IAG a annoncé l'achat de 200 de ses 737 MAX, son modèle cloué au sol après les deux crashs aériens. Alors que Boeing traverse la crise la plus grave de son histoire, cette commande redonne de l'oxygène aux constructeurs américains et cette marque de confiance pourrait accélérer le retour dans les airs du 737 MAX.
Et on vient d'entendre un reportage de Patricia Lecomte pour Radio France Internationale qui était donc au Salon International de l'Aéronautique au Bourget en France qui a lieu en ce moment. On reste en France pour parler maintenant de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il a vu son dernier recours rejeté par la Cour de cassation dans l'affaire dite Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy va donc être jugé dans les prochains mois à Paris pour corruption. Les explications de Stéphane Geneste de RFI.
Pour la première fois sous la Ve République, un ancien président sera jugé pour corruption. C'est la Cour de cassation qui a rejeté ce mardi les derniers recours formés par Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et Gilbert Azibert, un ex-haut magistrat. Ces recours avaient pour objectif d'éviter un procès pour corruption et trafic d'influence. L'ancien président de la République sera donc jugé par le tribunal correctionnel, une première pour Nicolas Sarkozy, alors qu'il est déjà menacé par le procès de l'affaire Big Malion. Dans cette affaire, Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir, en 2014, via son avocat, des informations secrètes détenues par un magistrat de la Cour de cassation. Au terme de leur instruction l'année dernière, les juges avaient déjà ordonné un procès pour corruption contre les trois hommes, conformément aux réquisitions du parquet national financier, et cela malgré les nombreux recours déposés par l'ancien président. Le procès de la dite affaire des écoutes se tiendra donc dans les prochains mois.
Alors avant de retrouver tout à l'heure le magazine des sports avec Jean-Noël, on fait un petit point sur la Coupe du Monde de football féminin. L'Écosse a été éliminée de la compétition par l'Argentine qui a réussi à accrocher un nul 3-3 après une très belle remontada en toute fin de match. Alors tout n'est pas complètement encore gagné pour les joueuses argentines puisque pour qu'elles soient qualifiées, il va falloir que les matchs prévus demain entre la Nouvelle-Zélande et le Cameroun, mais aussi entre le Chili et la Thaïlande, se terminent en match nul. Carlos Borrello, l'entraîneur de l'équipe d'Argentine, reste néanmoins confiant. Il pense que tout est encore possible.
Así que lo que nos queda ahora tener mucha paciencia.
What's in store for us now? Basically, we need to be really patient and wait for tomorrow and find out what ends up happening with the results and how everything pans out. But if you're asking me if I'm satisfied with what we've done so far, well, yes, I am.
Et puis les Matildas, elles, après leur très belle victoire 4-1 contre la Jamaïque, se préparent pour leur prochain match. Il est prévu dimanche face à la Norvège et ça va être un peu plus relevé car les Norvégiennes sont très fortes. Et puis il y a un gros enjeu aussi pour ce match puisque en cas de victoire, les Matildas éviteraient au prochain tour de jouer contre la France et l'Allemagne qui font partie des équipes favorites dans ce tournoi. On fait maintenant un petit point sur la météo de ce jeudi 20 juin en Australie. 19 degrés et des nuages à Perth, des averses à Adélaïde et Melbourne où il fait 12 degrés, 12 degrés aussi à Hobart en Tasmanie, 10 degrés dans la capitale à Canberra, 15 degrés à Wollongong, 18 à Newcastle et 16 à Sydney. Un peu de nuages dans le ciel de Brisbane où il fait 21 degrés, du soleil à Cairns avec 25 degrés et il fait beau et chaud à Darwin avec 30 degrés.
Stories in your language by visiting sbs.com.au.